Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a jugé insupportables et inhumains les propos du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, sur la situation à Gaza. L'Iran a mis en garde les pays du Golfe contre toute assistance à l'armée américaine qui serait considérée comme un soutien envers Washington. Et en France, la surmortalité liée aux fortes chaleurs atteint déjà 7300 décès cette année, selon un bilan provisoire. Dans l'actualité au Moyen-Orient, d'abord à Gaza, une frappe israélienne sur un commissariat de police a fait 9 morts selon les autorités sanitaires. Israël affirme avoir ciblé un commandant du Hamas. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a jugé insupportables et inhumains les propos du ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, sur Gaza. Il condamne aussi la politique israélienne en Cisjordanie et menace de prendre de nouvelles sanctions contre les colons et leur soutien. On fait le point avec vous, Inès Fil.
Et oui, le ministre français des Affaires étrangères monte au créneau dans l'entretien réalisé par nos confrères du journal La Montagne. Les propos du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite en Israël, sont insupportables et inhumains, a affirmé Jean-Noël. En début de semaine, dans un podcast avec un ancien otage à Gaza, Itamar Ben-Gvir a tenu des propos d'une extrême violence à l'égard des Palestiniens de Gaza, affirmant que, je cite, « des éliminations ciblées devraient être menées chaque nuit à Gaza, et les en 30 ou 40, pas seulement ceux qui vous mettent en danger. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en vie. Je leur fais un compliment en les qualifiant d'êtres humains. » Fin de la citation. Alors, lors de son entretien, Jean-Noël Barrot a aussi condamné la situation en Cisjordanie occupée. « C'est proprement indigne et devrait tous nous révulser », a-t-il dit, en référence aux violences des colons israéliens. Le ministre des Affaires étrangères menace de sanctions à l'encontre non seulement des responsables de ces violences, mais également des entités qui, depuis Israël, donnent les moyens à ces colons violents de chasser les Palestiniens, de leur brûler leurs récoltes et de détruire leurs bâtiments publics. Alors, le 28 mai dernier, le Conseil de l'Union européenne a sanctionné 3 colons israéliens extrémistes et 4 entités impliquées dans les violences coloniales. Jean-Noël Barrot l'a rappelé, laissant entendre que la France pourrait soutenir de nouvelles sanctions de concert avec ses partenaires européens. Certains signes vont dans ce sens. Même l'Allemagne, habituellement prudente sur la politique israélienne envers les Palestiniens, durcit le ton. Ce mercredi, le chancelier Friedrich Merz a condamné avec la plus grande fermeté les propos inhumains et contraires au droit international du ministre israélien Itamar Ben-Gvir. Il faut dire que les derniers mois, les violences extrêmes à l'égard des civils palestiniens se multiplient en Cisjordanie, perpétrées par des colons, mais aussi par l'armée israélienne. Et puis à Gaza, Israël bloque aujourd'hui toute solution politique. De nombreuses organisations des droits humains, ainsi que des spécialistes de la question palestinienne, appellent régulièrement à prendre des sanctions fermes contre Israël.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et l'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle sur la mort de Inna Rajab, une enfant de 5 ans tuée à Gaza en 2024 après des investigations sur cette affaire et 4 autres qualifiés, je cite, d'incidents exceptionnels survenus au cours des combats dans le territoire palestinien. L'Iran a mis en garde les pays du Golfe contre toute assistance à l'armée américaine qui serait considérée comme un soutien aux opérations militaires de Washington contre la République islamique, a déclaré le chef des forces armées iraniennes. Dans le reste de l'actualité internationale, en Centrafrique, au moins 100 personnes sont mortes lors d'un glissement de terrain dans une mine d'or artisanale de l'ouest du pays, à la frontière avec le Cameroun, selon des sources locales. En France, le ministre des Comptes publics, David Amiel, a présenté ses excuses face au piratage massif du fisc et le vol de données de près de 700 000 contribuables. L'administration fiscale a reconnu une autre fuite de données moins sensible sur les successions. Je vous laisse écouter le ministre des Comptes publics.
On imagine sans peine l'état d'esprit de la personne qui apprend que son revenu, son adresse, son courriel, C'est un nombre d'informations liées à sa situation fiscale, le revenu fiscal de référence par exemple, sont potentiellement à la portée de tout acteur malveillant. Comprends cette colère et à chacune des personnes concernées, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses. Parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère, mais je crois pouvoir dire que cette colère, avec la directrice générale des finances publiques, nous la partageons. Et cette colère, elle doit guider notre action pour informer, mais surtout pour protéger et pour protéger mieux encore.
Le ministre des Comptes publics, David Amiel. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé la formation d'une nouvelle unité cyber pour offrir une réponse opérationnelle plus réactive aux cyberattaques. Il a déploré que peu de ministères étaient au niveau requis en France au niveau de la cybersécurité. Dans un tout autre volet, le coût de la vie étudiante continue d'augmenter. Plus 1,66% en 2026, plus de 35% depuis 2017 selon l'UNEF, l'Union nationale des étudiants français. Le syndicat estime que le reste à charge mensuel des étudiants atteint désormais 1 300 euros, notamment en raison de la hausse des loyers, des transports et de l'alimentation. Pour en parler, Clara Privé, trésorière de l'UNEF.
C'est déjà 74 euros supplémentaires de dépenses par mois et c'est surtout des postes de dépenses à la hausse, notamment comme vous l'avez dit, le logement et les transports. Le logement étant le premier poste de dépenses des étudiants. Et concrètement, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait de faire des choix de manière constante entre se nourrir et acheter des protections périodiques, par exemple, entre se nourrir et se soigner, entre marcher, prendre les transports ou se nourrir. Donc en fait, aujourd'hui, la vie des étudiants, c'est faire constamment des choix entre telle ou telle dépense à cause de la précarité qui évolue et qui augmente encore cette année.
Et selon votre enquête, les étudiants doivent désormais trouver en moyenne 1 300 euros chaque mois pour couvrir leurs dépenses. Après la déduction des aides, comment est-ce qu'ils font face à ce reste à charge qui est devenu élevé?
Le travail, le salariat étudiant, aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près un étudiant sur deux qui travaille et ce tout au long de l'année. Et en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, les étudiants, pour la plupart, doivent travailler. Le chiffre, il monte à 80% si on prend également le travail estival. C'est des chiffres qui sont énormes, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Donc oui, cette précarité, elle a un impact direct sur la scolarité des étudiants et sur la réussite. C'est le résultat des politiques antisociales de Macron qui amène ce chiffre. C'est un chiffre qui est vertigineux et qui prouve qu'une seule chose, qu'il n'y a pas eu de vraie politique d'investissement de la jeunesse. Pour la jeunesse. Donc ça va être le dégel des loyers CROUS, ça va être l'augmentation des frais d'inscription, ça va être, pour rappel, la première mesure à destination des étudiants d'Emmanuel Macron, c'est quand même en 2017 la baisse des APL. Donc il y a un marqueur politique de précarisation de la jeunesse depuis 2017 et un continuum là-dessus. Et donc aujourd'hui on le voit, finalement le coup de butoir de ces politiques, c'est les deux rapports qui sont sortis récemment. Le premier qui préconise de multiplier par 5 les frais d'inscription, ce qui est absolument énorme, et le deuxième qui est de familiariser les APL et qui ferait perdre les APL à quasiment 200 000 étudiants sur le rapport. Donc on voit bien que précariser les étudiants, c'est un objectif politique.
Clara Privé, trésorière de l'UNEF. Dans le Gard, le corps partiellement calciné retrouvé dans des vignes à Saint-Gilles a été identifié comme celui d'une influenceuse, Sonia Bellina, âgée de 29 ans. Trois suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête ouverte pour assassinat, selon le parquet de Nîmes. Le président du groupe macroniste au Sénat, François Patria, un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, est mort aujourd'hui à l'âge de 83 ans, une annonce de son groupe parlementaire. Et enfin, alors qu'une troisième vague de chaleur sévit en France depuis fin juillet, l'une des plus longues jamais enregistrées dans le pays, le bilan provisoire de la surmortalité lors des périodes de forte chaleur cette année s'élève déjà à 7300 morts selon les autorités sanitaires. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.